Alors, bonjour à tous celles et ceux à qui j'ai pas pu dire bonjour. Et le titre de mon message, c'est Je suis perdu, j'ai perdu. Donc, on va voir ces deux aspects de manière interchangeable. Et on peut être perdu ou on peut perdre dans beaucoup de situations. Il y a énormément de gens autour de nous qui perdent leur vie, qui perdent leur temps dans des passions, dans des péchés, dans des choses qui les troublent, qui perdent leur argent, qui perdent leur santé. Et qui un jour, à force de perdre des choses, ne peuvent que dire je suis perdu. Le taux de suicide augmente dramatiquement. Il ne s'agit pas seulement d'adultes qui ont connu des choses terribles, mais il s'agit de jeunes, d'adolescents. Et il y a une bonne nouvelle pour ceux-là, pour ceux qui sont dans le désespoir, c'est que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour les chercher et pour les sauver. Il n'est pas question, là, vous voyez, qu'il a essayé de repérer ceux qui le cherchaient. Non, c'est lui qui les a cherchés. Et il a sauvé ceux qui acceptaient d'être sauvés. Et j'aimerais prendre quelques récits de la Bible où les gens ont dit je suis perdu ou j'ai perdu. Alors il y en a, évidemment, il y avait le geôlier, c'était quelqu'un qui pourrait s'ajouter à cette liste. Il avait le sentiment d'avoir tout perdu, d'être perdu lui-même, mais le Seigneur est intervenu. Mais j'ai pris des petites histoires, et la première ne tournait pas forcément. Se trouve dans 2 Rois chapitre 6. Dans 2 Rois chapitre 6, il est question du prophète Élisée qui réunissait autour de lui des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient en la puissance de Dieu. Ce prophète avait vu la main de Dieu à l'œuvre d'une manière extraordinaire. Il avait suivi, donc il s'appelait Élisée, ce prophète. Et il avait suivi son maître qui s'appelait Élie. Et quand Élie est monté au ciel, Élisée a ramassé son vêtement, son manteau. Et il a reçu une double portion de l'Esprit de Dieu qui reposait sur Élie. Élisée l'a reçu. Et il était là avec d'autres prophètes, avec d'autres de ses compagnons. Et ils ont décidé d'aller construire un agrandissement au local dans lequel ils étaient. Donc ils ont abattu des arbres pour construire. Et lorsqu'ils abattaient les arbres, il y a un des hommes, un des ouvriers, un des compagnons d'Élisée qui a perdu le fer de la hache dans l'eau. Quelque chose qui arrive à tout le monde, ou qui arrive très facilement, évidemment. Mais ce qui est frappant, si vous lisez ça dans 2 Rois 6, c'est de voir le désarroi dans son cœur. Et il va appeler Élisée, il va lui dire, j'ai perdu, je paraphrase bien sûr, mais j'ai perdu le fer de ma hache, et c'était pas à moi, c'était pas ma hache. Et mes amis, on sait très bien que beaucoup de gens ont perdu leur âme ou perdent leur âme. Mais il y en a peu qui reconnaissent que c'était pas à eux, que leur âme n'était pas à eux et qu'ils vont devoir rendre compte. La Bible nous dit clairement qu'on va devoir rendre compte devant Dieu pour ce qu'on a fait de notre âme. Et cet homme était dans le désarroi. Et si vous êtes dans le désarroi dans lequel était cet homme, si vous ressentez la même chose pour avoir fait de votre vie un gâchis, un échec, eh bien il y a de l'espoir parce que Élisée a pu répondre aux besoins de cet homme. Et il y a eu un miracle qui s'est produit. Vous savez, Élisée, il en a vu des miracles. Et si vous croyez réellement que Dieu peut agir dans votre vie, vous verrez des miracles dans votre vie aussi. Élisée a pris un morceau de bois qu'il a lancé à l'endroit où se trouvait le fer. Et ça a permis au fer de pouvoir remonter en surface, miraculeusement. Il y a un bois particulier, non pas physique, mais c'est le bois de la croix. Parce que sur la croix du calvaire, il y a Jésus qui est mort. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez retrouver votre âme, vous pouvez sauver votre âme, parce que vous pouvez venir à Jésus et reconnaître qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est mort pour vous, et vous donner à lui pour le suivre, pour que votre âme ne soit pas perdue. Il y a un autre récit totalement différent, dans d'autres circonstances qu'on trouve dans Matthieu. Et c'est le récit d'une femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Et c'est dans le Nouveau Testament, ça veut dire que c'est l'histoire de Jésus, notamment dans les évangiles, l'histoire de Jésus. Et cette femme, elle était en souffrance parce que son âme, ce qui était la vie, la raison de vivre ou la force de vivre, s'en allait quotidiennement depuis 12 ans. Et son cœur était dans la tristesse et elle pouvait dire « J'ai perdu, je perds mon sang, je perds ma vie, je perds mon espérance. » Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler parce qu'on... Beaucoup de gens parlaient de Jésus, des miracles qu'il faisait. Mais de manière extraordinaire, alors qu'elle avait dû entendre des témoignages de Jésus, de l'œuvre de Jésus, de manière extraordinaire, elle n'a pas fait comme les autres, en disant « je vais aller devant Jésus et je vais lui dire « sauve-moi et pitié de moi, sauve-moi ». Non, c'était une femme très timide, très réservée. Et elle en a déduit que si Jésus pouvait guérir les malades et que s'il était le Fils de Dieu, alors il suffirait pour elle de toucher son vêtement. Et elle s'est faufilée dans la foule de manière la plus discrète possible et elle a touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie. Le Seigneur Jésus lui a demandé de donner témoignage. C'est dur ça. Parce que visiblement, c'était une femme très réservée qui avait peur d'être exposée. Mais le Seigneur a voulu qu'elle donne son témoignage. Il lui a dit « J'ai senti que quelque chose s'est passé. Quelqu'un m'a touché. » Est-ce que ce matin, vous voulez toucher le vêtement de Jésus? On a vu tout à l'heure que Élisée était revêtu en quelque sorte du manteau d'Élie. Et c'est parce qu'il a été là quand Élie est parti qu'il a pu avoir la puissance qui animait la vie d'Élie. C'est le Saint-Esprit. Et là, cette femme qui touche aussi le manteau ou le vêtement de Jésus. Il y a un autre récit dans Zacharie. Tout au début de Zacharie, lorsque le prophète Zacharie voit en vision le sacrificateur Josué, fils de Yotsadak, il le voit en vision et dans cette vision, il voit ce sacrificateur revêtu de vêtements sales. Remarquez, il est encore question des vêtements. Il était revêtu de vêtements sales. Et le diable qui l'accusait. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Vous sentez que vous avez perdu la pureté, les sacrificateurs portaient des tenues strictement propres pour se présenter devant Dieu. Il ne devait y avoir aucune souillure, aucune tache. Et là, devant, dans la vision de Zacharie, ce sacrificateur était souillé. Et le diable qui l'accusait. Et peut-être c'est ça que vous sentez ce matin, que vous êtes accusé parce que vous êtes objectivement sale. Vous avez fait des choses qui vous ont souillé. Vous avez pensé des choses qui vous ont souillé. Vous avez pratiqué des choses qui vous ont troublé, qui vous ont souillé. Et le diable vous accuse en pointant du doigt sur ce que vous avez fait. Mais il a été donné l'ordre de revêtir ce sacrificateur de vêtements blancs. C'est pas qu'ils devaient toucher le vêtement de Jésus, c'est qu'ils étaient revêtus du vêtement pur et propre. Et ce matin, Dieu veut le faire dans votre vie aussi. Peut-être que vous êtes à un stade où vous sentez que vous avez perdu votre innocence, comme le fer d'une hache qui tombe dans l'eau. Vous ne savez même plus où ça se trouve. Peut-être que vous avez perdu votre innocence et vous avez perdu votre force depuis 12 ans ou depuis longtemps. Et vous avez besoin de toucher le vêtement de Jésus. Mais peut-être que vous avez besoin d'aller plus loin que de toucher le vêtement de Jésus. Vous avez besoin d'être revêtu, comme dit Ésaïe, des vêtements de la délivrance. Vous avez besoin de recevoir ces vêtements propres qui font en sorte que vous n'êtes pas constamment souillé, mais au contraire, constamment renouvelé avec des vêtements propres. Le Seigneur est là pour vous ce matin. Le Seigneur fait ça parce qu'il est mort sur la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que ce soit possible. On va voir tout à l'heure qu'il n'est pas seulement mort sur la croix. Il est aussi, il veille aussi à ce que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Et donc, comme un quatrième exemple dans la Bible, il y a ce fameux chapitre d'Ésaïe, chapitre 6, où le prophète Ésaïe voit le ciel et il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Vous avez sur vos lèvres, sur vos pensées, sur vos cœurs, des choses impures. Et dans la présence de Dieu, il y a ce cri, cette conscience de la souillure. Je me rappelle comment, quand l'Évangile était prêché, quand j'ai assisté à des réunions où il y avait des hommes qui étaient des malfaiteurs réunis et qui entendaient l'Évangile, il y avait un silence. Un silence parce qu'ils écoutaient, parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire que d'avoir le cœur souillé, parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire d'avoir le cœur impur. Si vous allez dans les prisons prêcher l'Évangile, vous avez des gens qui savent ce que c'est le péché. Et quand vous prêchez avec puissance, ils entendent parce que ça répond à quelque chose en eux. Ésaïe, le prophète, a eu cette vision. Il a vu la sainteté de Dieu. Il a vu la propreté de Dieu. Il a dit « Malheur à moi, car je suis perdu. » C'était même pas « j'ai perdu », c'est « je suis perdu ». Et vous savez que l'un des anges, un des séraphins, vola vers lui. Il a pris des charbons ardents. sur l'autel et a touché ses lèvres, les lèvres d'Ésaïe. Mais il est dit aussi, si vous regardez dans Ésaïe chapitre 6, que les pans de la robe de Dieu remplissaient le temple. C'est une vision. Mais c'est ça dont on a besoin. Pas seulement de toucher le vêtement, pas seulement d'être revêtu de vêtements blancs, mais d'avoir les pans de la robe de Dieu qui remplissent le temple que nous sommes. De sorte à ce que notre vie soit constamment touchée par la grâce de Dieu, que notre vie soit constamment remplie de la présence de Dieu, que nous soyons revêtus des mêmes vêtements que le Christ. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque, à l'époque du Yom Kippour, du grand pardon qui devait se perpétuer dans le peuple d'Israël, eh bien, les Juifs, selon l'ordre de Dieu, devaient consacrer, devaient prendre deux boucs. Et il y avait un tirage au sort pour savoir lequel des deux boucs serait sacrifié pour l'expiation des péchés. Parce que le peuple avait péché, il fallait que ce soit un animal innocent qui soit sacrifié à la place. Et le sort était tiré entre les deux boucs, et l'un des deux était sacrifié, et le sang était présenté dans le lieu très saint, par le sacrificateur. Mais l'autre bouc était lâché dans le désert. Et avant ça, Moïse et Aaron devaient imposer les mains à ce bouc pour qu'il porte le péché du peuple. Le peuple confessait ses péchés et ils imposaient les mains pour que ce soit ce bouc qui porte le péché. Donc d'un côté, il y avait un bouc qui allait donner son sang. C'est ça qui a donné le sens de bouc émissaire. C'est celui qui meurt alors qu'il est innocent. Il meurt pour les autres. Il y avait un bouc émissaire donc qui était sacrifié, dont le sang servait à la purification du peuple. Mais l'autre bouc était envoyé dans le désert. Mais évidemment, un bouc, c'est herbivore. Un bouc a besoin de boire, donc lui aussi était voué à la mort dans le désert. Et vous savez que je pense que ces deux boucs représentent ce que Jésus a fait pour nous. Il est le bouc émissaire, il est celui qui a reçu sur la croix le châtiment de nos péchés. Il est mort sur la croix sacrifié pour que son sang nous justifie, pour que son sang nous purifie. Mais Jésus est aussi allé au désert. Vous lisez ça dans Matthieu chapitre 4. Il est allé au désert aussi pour remporter la victoire, pas pour mourir, mais pour remporter la victoire, pour que nous puissions avoir la victoire dans ce monde. Et le bouc qui était livré au désert était en quelque sorte tué par l'environnement, par la chaleur, par le manque d'herbe, par le manque d'eau. Mais Jésus est allé au désert pour remporter la victoire. Il a été tenté au désert pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Mais il a remporté la victoire. Et je veux dire ce matin que la victoire, elle est pour nous aussi. Non seulement Jésus est mort, mais il est aussi le bouc qui est allé aussi dans le désert pour remporter la victoire. Et si vous trouvez que dans le monde dans lequel on vit est un désert, Il suffit d'écouter la radio, de regarder la télévision, et vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui désaltère. Mais si vous êtes là dans un désert et vous dites, je sais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, mais je suis dans le désert. Sachez qu'il est allé aussi dans le désert pour remporter la victoire. Parce que vous ne pouvez pas obéir à la loi. Vous n'arrivez pas de vous-même. Mais lui est allé pour obéir à la loi. Le diable l'a exposé aux tentations du corps et il a refusé. Il a résisté. Il a eu la victoire là-dessus. Je l'avais suggéré dans une autre prédication que sa maman Marie, lorsqu'elle a mis au monde Jésus, il lui avait été dit, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut, le saint enfant. Et lorsqu'une femme juive accouchait, elle n'avait pas le droit de toucher des choses saintes pendant 40 jours et 40 nuits. Or, évidemment, toutes les mamans avaient le droit de toucher leur bébé parce que leur bébé n'était pas saint. Mais Marie se trouvait dans le dilemme, l'impossibilité d'obéir à la loi parce que son bébé était saint, mais elle devait le nourrir. Et Jésus a expié cette faute, cette impossibilité à obéir à la loi. Il l'a expié dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas été touché. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas eu à manger, il n'a pas eu à boire. Et c'est la même chose pour nous. Dans le désert, il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Pas seulement en connaissance du fait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, il y a un bouc qui est mort à notre place, qui a donné son sang pour que ce sang soit présenté dans le lieu très saint. Et c'est ce qu'Hébreu nous décrit, que Jésus était supérieur au sacrificateur, au souverain sacrificateur, parce qu'il a pu apporter son propre sang, pas le sang d'un animal. Mais il était aussi le bouc qui était dans le désert et qui a remporté la victoire sur les tentations, sur l'environnement, de sorte à ce qu'on puisse marcher avec Dieu. Et si ce matin vous dites « Je suis perdu », si vous dites « j'ai perdu tant de choses que j'aurais voulu garder », eh bien le Seigneur est pour vous. Le Seigneur veut vous parler ce matin, il veut vous toucher. Il veut remplir votre vie afin que vous ne soyez pas dans un désert assailli par la tentation, mais que vous soyez en mesure de marcher, en mesure de vivre la vie de l'Esprit de Dieu. Alors on va prier quelques instants, et que ce soit pour la première fois que vous priez ou pour la millième fois, demandez, si c'est dans votre cœur, demandez à Dieu très sincèrement d'agir dans votre vie, de se révéler à vous ce matin. Si vous avez besoin de toucher son vêtement parce que vous êtes dans une situation qui vous trouble et vous savez que Jésus peut vous délivrer, alors en esprit, touchez le vêtement de Jésus. Si vous avez l'impression d'être sale, alors acceptez les vêtements de la délivrance, les vêtements du salut. Si vous sentez que vous avez perdu quelque chose de précieux et vous devrez rendre compte un jour devant Dieu pour l'avoir perdu parce que ça ne vous appartenait pas, ça appartenait à Dieu, eh bien, demandez à Dieu de vous montrer, de vous révéler le bois du calvaire, le bois de la croix, qui vous permet de retrouver ce que vous avez perdu. On va juste prier quelques instants et dans le silence de votre cœur, vous pouvez demander à Dieu d'agir maintenant. Si vous avez des doutes, demandez à Dieu de se révéler à vous maintenant, dans ce moment de prière. N'hésitez pas à parler aussi après le culte, à demander la prière. Peut-être que le Seigneur vous demandera de dire à quelqu'un que vous avez touché son vêtement, qu'il a fait quelque chose dans votre vie ce matin. Mais laissez-le agir. Laissez-le agir, même si vous êtes chrétien depuis des années. Laissez-le toucher le domaine de votre vie qui a été perdu ou qui est perdu. Prions. Seigneur, notre Dieu, ta parole est sainte et tu es trois fois saint. Mais tu te révèles encore aujourd'hui. Seigneur, ce n'est pas un texte que nous lisons, c'est ta parole qui nous parle. Seigneur, un texte peut nous laisser indifférents, mais ta parole nous touche, elle nous transforme. Et Seigneur, ce matin, je te prie pour ceux qui sont dans ces différentes situations où ils disent « j'ai perdu » ou « je suis perdu ». Seigneur, que tu te révèles comme celui qui est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Seigneur, ce matin, tu veux agir profondément dans la vie de chacun d'entre nous. Et Seigneur, il se trouve que souvent, ce sont les plus grands pécheurs qui ressentent le plus grand besoin de Dieu. Et Seigneur, que tu agisses pour que, Seigneur, les gens qui se donnent pour la première fois à toi ce matin soient réellement sauvés, réellement libérés, réellement remplis de l'Esprit et en mesure de marcher en nouveauté de vie. Seigneur, fais cette œuvre dans le nom de Jésus. Amen.